Donc voilà, donc vous l'avez vu, la publicité de l'hôtel Pullman, c'est une campagne de publicité qui s'appelle Le Nouveau Nomade, et donc qui définit, on a à peu près tous les ingrédients du storytelling de l'urbanité globale qui essaie de couvrir le monde.
Et questo sarebbe ad indicare quali sono i nuovi nomadi e soprattutto in quale tracciato di quello che viene definito come l'urbanismo attuale, l'urbanesimo attuale.
Donc alors le nouveau nomade, vous l'avez vu, il est beau. Il commence son jogging à New York pour le terminer à Tokyo, puisqu'en définitive, la métropole, c'est moins une idée d'une ville que l'idée d'une... Comme sur les sacs de produits de luxe qu'on peut voir à l'aéroport, où on va acheter une bouteille de parfum Chanel, il y a marqué Tokyo, New York, Londres. C'est cette espèce de ville qui se veut globale. Et le nouveau nomade est cette espèce de cadre métropolitain, nomade, qui va se déplacer en utilisant les trains à grande vitesse, les aéroports et les avions qui vont relier l'ensemble de ces villes.
Allora, chi è il nuovo nomade? È un nuovo nomade che viaggia tra New York e Tokyo, che si muove all'interno di questa città globale, all'interno della quale si ritrovano gli stessi market di riferimento, e che appunto ha come riferimento questa sorta di simboli del commercio collettivo.
Donc voilà, ça c'est l'histoire officielle, c'est l'histoire à laquelle on nous demande tous d'adhérer. Mais donc il y a différentes manières, et c'est aussi l'idée qui traverse notre travail et qui traverse ce livre, différentes manières de raconter pour les tenants, ceux qui ont le pouvoir, il y a différentes manières de raconter cette histoire de l'espace métropolitain. Donc on l'a vu, là on était dans l'espace capitaliste, quasiment marchand, enfin on se doute que ce garçon il doit vendre très cher des produits, voire des actions. Et d'un autre côté, on a le développement de la ville cool qui passe par des ritournelles comme la réappropriation de l'espace public, la récupération, le recyclage, l'architecture événementielle.
Ok, ci sono diversi modi evidentemente di raccontare questo spazio metropolitano del moderno. C'è chiaramente la modalità dello spazio raccontato dal capitalismo, dello spazio capitalistico, che ci mette in mostra una città cool nella quale possiamo, come dire, tutto usare e tutto avere di riferimento, e poi in realtà adesso vedremo come proprio così non è.
Donc là je présente que deux images, mais c'est des choses qui doivent vous évoquer aussi des réalisations locales à l'occasion de l'exposition. Là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est du... On voit l'histoire que cette petite architecture raconte et qui utilise aussi des arguments comme espace public, récupération, recyclage. Le fait que cette nouvelle ville, en définitive, elle est presque sans impact. Elle se fait dans nos poubelles, elle ne coûte pas très cher au pouvoir public. Elle est un espace du divertissement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cette publicité quasi démocratique, on voit que cette ville coule.
Allora, dietro l'immagine evidentemente della città riciclabile, del divertimento in cui tutto si recupera e si usa diversamente, in realtà poi ci sono, e dietro questa piccola architettura che cerca di gestire gli spazi, in realtà poi si produce ben altro.
E donc là... ça peut être dans n'importe quelle métropole occidentale. Il se trouve que cette image vient de Moscou. C'est donc une installation qui est faite dans le parc Gorki à Moscou, auquel on accède en passant par des portiques électroniques comme à l'aéroport. On passe une barrière de vigile avant de pouvoir avoir cet accès à l'espace cool.
E per esempio questa immagine che vi sta mostrando, che viene dal Gorky Park di Mosca e che ci evidenzia insomma questa immagine, no, di architettura di riciclaggio, è proprio, come dire, dentro l'immaginario delle nuove realtà metropolitane.
Et on voit que les agents de cette ville sont aussi, alors parfois c'est un peu trouble pour nous, on est un peu surpris parce que ce sont des groupes d'architectes le plus souvent qui veulent se faire passer pour des, enfin qui nous sont présentés comme nos frères ou nos camarades, alors qu'on sait vrai qu'on se reconnaît assez peu dans ce type de pratique de décoration de l'espace du capital en définitive, et surtout l'espace du contrôle, puisque c'est bien voilà. Ça la question.
E allora queste agenzie che spesso si dimostrano molto amicali e che sono, come dire, dentro uno spirito, no, più cameratesco, in realtà poi presentano delle pratiche di decorazione che sono tipiche delle pratiche del capitale.
Voilà, donc ça, c'est le récit officiel. Alors évidemment, nous, la ville qu'on traverse depuis maintenant 20 ans, c'est pas celle-là, puisqu'on a commencé à travailler avec des personnes sans abri, avec toutes les personnes qui étaient absentes des représentations officielles, qui pouvaient utiliser parfois ce type de récupération, de recyclage, mais pour évidemment d'autres fins, c'est-à-dire la possibilité même d'exercer un droit au territoire, et le droit le plus fondamental qui est celui d'habiter.
Si, questa è la rappresentazione ufficiale della città cool, del radical chic che si rifà ai termini di riciclaggio, dell'ecologia. E noi cerchiamo di lavorare dal 98, abbiamo iniziato con occupandoci dei senza tetto che hanno a che fare con il riciclaggio, però per il recupero, però per altre questioni legate più alla necessità di non avere un diritto all'abitare.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce développement de la ville cool, le fait qu'on réutilise le langage des pauvres, le langage des mobiles, ceux qui sont contraints des fois au déménagement, à l'expulsion, passe en effet par un recyclage aussi de leurs codes esthétiques supposés. Donc c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la gypset par exemple, qui est, en même temps qu'on construit cette ville cool, on expulse encore davantage et on rend de plus en plus de gens mobiles. On les condamne en définitive au nomadisme, mais pour faire passer la pilule, on prend les abiti de celui qu'on assassine en définitive.
E, no, quello che è interessante notare è che nello sviluppo dell'immagine della città cool abbiamo questi due movimenti. Da un lato assistiamo a delle forme di espulsione dei nomadi, e dall'altro vengono ricatturate delle forme estetiche prodotte dalla città nomade che vengono riconvertite nelle forme della città cool.
Sì, wow. Bon, allora. Donc Échelle Inconnue, c'est à la fois un groupe de rock, mais aussi un groupe de dangereux fondamentalistes.
Échelle Inconnue è allo stesso tempo un gruppo rock, ma è anche un gruppo di pericolosi fondamentalisti.
Donc, je vais commencer par vous présenter nos ennemis et ce que tu évoquais tout à l'heure, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce que Tiziana évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la carte, ce rapport entre la carte, la guerre, la ville, la carte, et voir en quoi le verre est déjà dans le fruit et en quoi le logiciel de base est un logiciel qui vise à l'exclusion.
E ora vi presentiamo il nostro nemico e ci riferiamo anche a un tema che è stato già evocato, quello della carta. E in che modo soprattutto intendiamo sottolineare il logiciel di base, il programma di base ha per obiettivo è intrinsecamente legato a un processo di esclusione e di espulsione.
Donc la cartographie moderne, qui est aussi la naissance de l'architecture, quand je dis moderne, hein, c'est depuis le XVIIIe siècle à peu près, hein, et les pensées urbaines qu'on connaît aujourd'hui, donc naissent en France, donc ça fait partie des produits qu'on a très bien exportés, avec ce personnage qui est donc un des membres de la famille Cassini, qui était cartographe pour le roi de France.
E la cartografia moderna nasce in Francia con uno dei membri della famiglia Cassini, che era cartografo ufficiale del re di Francia.
Donc voilà, on se retrouve au XVIIIe siècle avec une obsession commune à peu près tous les monarques, c'est ils veulent absolument savoir sur combien de kilomètres carrés ils sont en train de régner. Donc ils font appel à des cartographes pour définir la taille de leur royaume.
E ci troviamo quindi nel XVIII secolo e siamo di fronte quindi a un'ossessione comune ai monarchi dell'epoca, quello di sapere su quanti metri quadri regnavano, e quindi fanno appello ai cartografi dell'epoca per risolvere questa loro ossessione.
Donc voilà, c'est là où ton problème commence avec les Italiens de manière générale. C'est donc les frères Cassini qui vont être chargés de la carte de France par Louis XIV et qui vont inventer de nouveaux outils pour dresser une carte géométriquement juste de l'espace, carte qui n'existe pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas de représentation géométrique juste de l'espace.
Et là che cominciano i problemi tra gli italiani e la Francia. E i fratelli Cassini disegnano per la prima volta una carta geometricamente giusta, perfetta.
Et donc ils inventent des systèmes de triangulation et donc qui font que la plupart des villes occidentales d'ailleurs sont percées par ces espèces de bijoux urbains que sont les clous d'arpenteurs, qui sont les différents points qui maillent l'ensemble du territoire et qui permettent de dresser ces cartes justes.
Si loro utilizzano quindi sistemi di triangolazione utilizzando dei chiodi urbani che permettono di ridisegnare il territorio in maniera più esaustiva possibile.
Et donc les frères Cassini, sur plusieurs générations, vont réussir à établir cette carte juste du royaume de France. Alors ça ne va pas faire plaisir au roi, parce qu'il va se rendre compte qu'il pensait régner sur plus de kilomètres carrés qu'il en avait en réalité. Hein, mais...
Et là, si, quindi i fratelli Cassini disegnano per la prima volta questa, una carta giusta, perfetta del regno di Francia, quello che non avrebbe fatto piacere al re perché pensava di regnare su più chilometri quadrati.
Et cette carte a très tôt été récupérée par Napoléon Ier, qui l'a adaptée pour en faire un outil de l'impôt, en la transformant en cadastre.
Et questa carta, questo strumento è stato recuperato poi da Napoleone I, che ne ha fatto uno strumento per il fisco, quindi inventando il catasto.
Donc voilà, ça c'est des versions modernes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on est architecte, moi je suis architecte, il y a forcément un moment où on va poser le projet d'architecture sur un plan de cadastre. Et que le plan de cadastre devient l'idée même de la ville. C'est-à-dire que quand un architecte travaille, il pense que la ville, c'est ça.
E questo lo vediamo bene in architettura, perché quando un architetto lavora, lavora a partire dal piano catastale, e quindi in architettura un architetto pensa che la identifica alla fine la città con il piano del catasto.
Or, sur quoi l'architecte est le faiseur de ville de manière générale? Donc quand je dis faiseur de ville, c'est tous les gens contre lesquels on essaie de travailler, hein. Ça signifie architecte, urbaniste, sociologue, flic, politique.
E quindi in cosa l'architetto è un produttore di città in maniera generale? Quando intendo produttore di città intendo definire tutta una serie di figure contro le quali noi combattiamo, ovvero gli architetti, gli urbanisti, i poliziotti, i politici.
E donc voilà, donc au bout d'un moment, qu'est-ce que ces gens-là manipulent? Ils pensent manipuler la ville alors qu'en définitive ils manipulent une représentation géométrique monarchique, et ensuite une représentation en définitive de l'impôt, c'est-à-dire ce qu'ils travaillent, ce qu'ils sont en train de manipuler, c'est la ville de l'impôt, c'est pas la ville.
E cosa alla fine quindi questi architetti manipolano, pensano di manipolare una rappresentazione geometrica della città, ma alla fine quello che manipolano è una rappresentazione del fisco.
Et alors, contre toute attente, et je vous promets, c'est la dernière fois que je le ferai, ceux qui nous ont un peu sauvés dans l'histoire, ce sont des prêtres espagnols du XVIe siècle.
Et contre ogni aspettativa, quelli che ci hanno salvato sono dei preti spagnoli del XVIIe siècle.
Puisque au même moment, quand le roi de France essayait d'établir sa carte géométriquement juste du territoire français, le roi d'Espagne avait exactement la même obsession, mais il avait moins d'argent. Donc au lieu de missionner cette famille, il va faire appel à un autre cartographe qui s'appelle Don Tomás López.
Et perché nello stesso tempo in cui il re di Francia ingaggia i Cassini, il re di Spagna che aveva meno soldi fa appello aveva la stessa esigenza, però fa appello a un altro cartografo che si chiama Don
Tomás López.
Tomás López.
Et qui lui, plutôt que d'envoyer directement sur le terrain des gens, va finalement décider d'appeler tous les curés du royaume d'Espagne, se disant que tout le royaume était divisé entre différentes paroisses, et va demander à chaque curé de dessiner la carte de sa paroisse, en se disant que rassemblant toutes ces cartes, il aurait enfin la carte globale du royaume d'Espagne.
E questo cartografo, che era anche un prete, quindi decide di lavorare in questo modo, fare riferimento, chiama tutti i curati di Spagna, e chiede a tutti i curati di disegnare il territorio della loro parrocchia, quindi avendo quindi come risultato una carta che è l'insieme di tutte le parrocchie di Spagna.
Donc c'est un des plus beaux échecs de la cartographie, c'est ça qui nous plaît beaucoup, c'est qu'il s'est retrouvé avec 500 cartes, 500 curés ont répondu, qui ont envoyé 500 cartes, mais qui vont devenir impossibles à assembler, puisque chacun, donc là c'est quelques exemples, chacun va réaliser la carte en fonction de son idéologie, son background culturel, etc. Donc il y a même un curé qui invente avant Breton et Desnos les calligrammes, d'autres vont faire des chiasmes, d'autres vont carrément faire des systèmes de diagrammes, et donc il va passer sa vie, cet homme-là, ce pauvre Don Tomás López, à essayer de réunir ses cartes et avec l'impossibilité d'en faire quoi que ce soit en définitive.
Et questo rappresenta il più grande scacco della cartografia, perché siamo di fronte quindi a 500 carte differenti, ogni curato disegna una carta secondo un'ideologia, un modo, secondo la sua formazione culturale differente, e Tommaso López perde tutta la sua vita cercando di mettere insieme queste 500 carte differenti che avevano delle matrici totalmente impossibili a riunire.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est pas juste une anecdote, c'est que ces cartes-là, elles racontent du territoire peut-être davantage que la carte de Cassini ou le cadastre, et surtout que ce sont des représentations du territoire qui ne peuvent pas servir au pouvoir.
E quello che è interessante è che sono queste carte non raccontano l'immagine del catasto, e sono soprattutto delle carte che non possono assolutamente servire all'esigenza del potere.
E donc un des buts d'Échelle Inconnue, ça a été pendant longtemps d'essayer de réaliser des cartes qui soient insaisissables par le pouvoir, en s'inspirant aussi d'exemples plus anciens. Enfin, ça signifie que ce ne sont pas des cartes qui ne servent à rien, ce sont des cartes qui ne peuvent pas être ressaisies. Un peu comme la cartographie médiévale qui a cet intérêt d'être une carte qui est habitée, qui n'est pas une carte d'une représentation de l'espace, de la terre plate, mais qui est une représentation justement d'histoire, che è già la costruzione di un racconto, in definitiva.
Sì, uno degli obiettivi quando abbiamo fondato Échelle Inconnue, quindi nei nostri primi progetti, era quello di costruire delle carte che erano inafferrabili, impossibili a catturare da parte del potere, non che non servivano a niente, ma che non erano possibili da catturare. E uno dei modelli era quello della cartografia medievale che...
Mais qui est une carte habitée, qui est une carte du récit, en effet.
Qui est une carte habitata, qui est une carte del racconto.
Et il nous semble, nous, que déjà ce travail de représentation est un moyen aussi d'opposer un contre-récit au récit officiel, comme on a pu le voir juste avant.
Et cette carte, qui est une carte de contre-représentation, qui est une carte qui s'oppone au racconto et à la carte d'expression del potere.
Et ce sont aussi des cartes qui permettent de saisir des réalités qui échappent naturellement au logiciel cartographique officiel.
Et sono anche delle carte che raccontano delle realtà che scappano al racconto della cartografia ufficiale.
Donc là, je vais montrer deux petits exemples de ce que nous on appelle des cartes, qui sont les cartes qu'on réalise avec les gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé il y a longtemps, avec des gens du voyage en France.
Et questo è un esempio di carte che noi realizziamo con degli elementi che facciamo con le genti del viaggio e che appunto sfuggono a quella rappresentazione.
Donc alors, notre principe de base à l'époque, c'était on distribuait des appareils photo jetables aux gens, on leur demandait de photographier leur territoire, et ensuite en atelier, on faisait un travail de légende, on écrivait ce qu'il y avait sur la photo.
Allora, quello che cercavamo di fare all'inizio era per esempio di donare, delle foto che poi venivano rielaborate dentro l'atelier e riformulate insieme.
Donc voilà, donc là deux exemples, une première affiche, alors souvent les photos d'ailleurs on les utilisait même plus, puisqu'on était obligé de, c'était le hors-champ qui était intéressant, ou le récit qu'on était en train de construire. Donc là une première qui a été la carte de Cindy, qui était gadgé, c'est-à-dire non rome, et qui était mariée avec un manouche, un Cindy, et qui a été pendant 2 ans du travail sur, parce que notre principe c'est on s'installe dans des lieux de vie et on travaille, et pendant 2 ans elle a été notre traductrice d'espace, pour nous expliquer dans notre langage à nous, ce qui était l'espace des voyageurs.
E questo è un primo esempio di formulazione di questa immagine che è stata realizzata da una donna che era sposata con un rom, una donna Sinti, e che ha rielaborato questa figura che poi è stata quella di essere anche una traduttrice della gente del viaggio.
Donc ça signifie qu'elle nous expliquait, donc là on voit les photos de ses amis sur le terrain qui sont avec des tuyaux d'arrosage, parce que alors souvent les caravanes appartiennent aux femmes, enfin bon, c'est pas que de la légende, mais souvent elles appartiennent aux femmes, et surtout c'est des caravanes qui sont très très chères, et il les achète avec des prêts à 25%.
Allora, e qui nella foto ci sono anche i suoi amici, perché spesso poi queste caravane sono molto molto care, e quindi se spesso appartengono poi a donne, e quindi bisogna, pardon, la dernière partie c'est quoi?
Il les achète avec des crédits très très chers.
Ah, ecco, e le comprano con dei prestiti, anche questi molto 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 cari.
Ce qui fait qu'ils en prennent grand soin, et les femmes passent quasiment leur journée, enfin les caravanes sont nettoyées au moins une fois par jour, quoi.
E quindi bisogna che queste caravane siano molto ben curate, le donne passano molto tempo a pulirle, a metterle bene, perché questo costa loro almeno due volte per giorno un impegno di pulizia e di cura.
Et surtout, ce qui est important dans cet exemple-là, c'est que Cindy, en fait, pendant deux ans, a essayé de faire ce travail de traduction d'espace. Et donc là, on voit, par exemple, c'est un emplacement d'une famille. Il y a une grande caravane pour les parents, la petite caravane pour les enfants, et la cuisine qui est là. Et nous, pendant des mois, on traversait... Enfin, il n'y a pas de clôture, donc on traversait naturellement, on prenait le chemin le plus court. Et il a fallu longtemps, c'est Cindy qui nous a expliqué que, quand on passait entre ces caravanes, c'est un peu comme si on passait dans le salon des gens ou dans leur salle à manger.
E quindi questo lavoro di traduzione, che poi è una traduzione dello spazio, vuol dire che questa donna Cinti, che ha realizzato poi questa disposizione dello spazio, lo poi presentasse e lo rendesse agibile. E noi che abbiamo partecipato all'esplorazione di questo spazio non avevamo evidentemente barriere, però dovevamo chiaramente operare all'interno di questa suddivisione.
Et donc, elle nous a expliqué d'autres choses. On avait du mal à comprendre pourquoi il y avait un tel investissement dans les caravanes, à quel point, pourquoi d'un seul coup, ces grandes fenêtres à l'arrière des caravanes étaient si importantes à leurs yeux. Et donc, elle nous expliquait que pour imaginer la valeur d'une grande fenêtre, ce qu'ils appellent un carreau américain à l'arrière des caravanes, il faut imaginer que c'est une véranda.
E quindi quello che noi non capivamo e abbiamo chiesto da questa traduttrice dello spazio, continuiamo a dire questo bellissimo termine, era come mai fosse così importante avere delle finestre sulla parte esterna, posteriore del caravan, e perché questa grande finestra funzionava come una sorta di vetrata, come una sorta di spazio aperto sull'esterno, una sorta di terrazza.
Alors, il est évident que ce qu'on raconte là, ça échappe complètement à l'exercice traditionnel de la représentation par les architectes, par les urbanistes et même souvent par les sociologues d'ailleurs, qui ratent tout ça.
Ed è chiaro che questo modo di rappresentare lo spazio, di formulare lo spazio, sfugge del tutto a quelli che sono gli architetti, gli urbanisti e i tecnici che hanno un altro modo di ravvisare l'uso dello spazio.
Voilà, c'est un autre exemple, c'est une autre femme du terrain qui s'appelait Violette, si je me souviens bien. Et quand on est gadget et qu'on voit une caravane, elle a beau être très grande, on voit quand même que ça mesure que de 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés. Mais elle, en dessinant, là, en faisant ce dessin, elle nous a expliqué à quel point chaque meuble était une extension possible de la caravane et comment le fait d'ouvrir une porte de la cuisine, ça crée un espace de salle de bain, comment ouvrir une autre porte, recréer une chambre et comment en définitive cet espace qu'on imaginait tout petit se développer de cette manière-là, comme elle l'a représenté là sur.
Et qui c'è un altro esempio di questa Violette, se corretto, che ci spiegava come in questo spazio di 12-15 metri quadri in realtà poi i mobili fossero stati pensati come un'estensione dello spazio della carovana stessa, e come questo fosse poi un modo di rappresentare un'apertura e un'articolazione di questo spazio.
Et donc on parlait tout à l'heure de... Donc voilà, c'est un peu... L'idée, c'est que si on veut arriver à comprendre justement cette ville des condamnés du cadastre, il faut arriver à développer des moyens de représentation qui nous soient propres et qui soient le plus insaisissables possible par les autorités. Et ça passe, à mon avis, par là.
Sì, e se vogliamo capire, insomma, che cosa sono questi modi di vita, questi spazi di vita di quelli che sono gli allontanati dal catasto, gli espulsi dal catasto, è che dobbiamo capire in quali modi si sviluppano e si precisano i loro modi di vita.
Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard. Hop là, hop. Donc, 50. Et donc on en parlait tout à l'heure, on parlait donc de la Smala, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est un projet qui a duré 6 ans pour nous, qui nous a fait faire le tour de France, puis le tour de l'Algérie. Donc la Smala, comme le disait Cosimo, qui a été pendant 2 ans la capitale de l'Algérie, tenue par le responsable du djihad, qui était Abdelkader, et en voilà la carte de cette ville.
Si, parlavamo prima della Smala, è un progetto che ci ha tenuti occupati per diversi anni. E la Smala, che è stata la capitale nomade dell'Algeria per 2 anni, e questa che ora vi mostriamo è l'immagine della mappa di questa città nomade della Smala.
Donc alors pour avoir une idée, parce que c'est quand même étonnant quand on fait des années d'études d'architecture qu'on n'entend jamais parler d'un exemple urbain pareil, parce qu'on est vraiment face à une ville, on n'est pas face à un campement. Là c'est un schéma, il faut imaginer que le diamètre c'est entre 20 et 25 kilomètres.
È un progetto di cui non sentiamo mai parlare nelle scuole di architettura o di urbanismo. E questo è uno schema che dobbiamo immaginarlo largo quasi 25 metri quadri.
Chilomètres quadrati. Et donc c'était une ville qui était composée de tentes qui rassemblait l'ensemble des tribus de l'Algérie, qui est une vraie création moderne. Si on est au 19e siècle, là c'est un homme qui essaie de créer une nouvelle entité qui est l'Algérie et qui n'existe pas encore, et cette ville en est pour lui l'outil politique en même temps que l'outil guerrier.
Questa è una città composta da tende e è una città che viene creata ex novo, siamo nel pieno della modernità, nel centro del XIX secolo, e la creazione è anche di un nuovo progetto, immagine di un'Algeria che non esiste ancora all'epoca.
Et donc voilà, après pour se rendre compte à quel point c'était un projet moderne, c'est que nous, il y a très peu de documents de cette ville, il y a ce plan, il y a une toile qui est dans un musée militaire, et c'est vrai que nous au départ on imaginait que c'était une ville qui était composée de tentes berbères faites par les femmes dans les villages, ce genre de choses, et on est tombé sur un courrier d'Abdelkader à l'ambassadeur des États-Unis, qui s'inquiétait parce qu'il ne voyait pas les 70 tentes qu'il avait commandées aux manufactures du Caire être livrées par les cuirassés américains sur les côtes algériennes.
E per capire come questo sia un progetto essenzialmente moderno, Stani ha fatto riferimento a questo documento. Loro, prima di avere a che fare con questo documento, immaginavano appunto la città come composta di tende berbere tradizionali. Invece in questo documento che hanno trovato in un archivio ad Algeri, è una lettera che Abdelkader inviava a un corrispondente americano al Cairo, in cui richiedeva l'invio di queste 60.000 tende prodotte da una corazzata americana.
Donc voilà, ça fait partie des histoires, en tout cas auxquelles, parce que notre travail, quand je parle d'histoire clandestine, c'est en effet des histoires qui sont sans descendance, puisque la ville est détruite, elle est ostracisée, on n'en parle pas dans les écoles françaises, on n'en parle pas dans les écoles algériennes. C'est comme si cet exemple urbain incroyable, qui a peut-être réapparu avec les moments des contre-sommets altermondialistes, que ce soit le premier à Seattle ou ailleurs, a complètement disparu. Néanmoins, c'est des histoires auxquelles nous, on voudrait se référer ou dans lesquelles on voudrait s'inscrire. Et tout le travail, c'est réécrire ces histoires.
Et questo progetto, che è un progetto di una città, che è uno strumento politico e che è totalmente scomparso, non se ne parla nelle scuole di architettura, né in Francia, né in Algeria, è un progetto che forse poi è riapparso nei contro-summit di Seattle o dei vari G8, e rappresenta, quindi porta in sé in nuce la possibilità di una nuova forma di urbanità, e in questo è nella riattualizzazione di questo progetto che noi vogliamo lavorare, vogliamo iscriverci.
Je m'excuse de recomposer le discours comme ça au fur et à mesure. Donc après s'être intéressé à la Smala, donc pendant toutes ces années, on a commencé à s'intéresser à d'autres formes de mobilité dans le cadre de la ville, d'abord sur le territoire français, et puis là aujourd'hui de plus en plus dans l'espace post-soviétique.
E dopo esserci interessati alla Smala, ci siamo interessati ad altre forme di mobilità, sia nello spazio francese, adesso nello spazio post-sovietico.
Et donc on s'est naturellement intéressé à ces formes qui sont aussi des formes de la ville guerrière ou des formes de la ville résistante face à la ville occidentale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exemple algérien est particulièrement important puisque c'est à Alger qu'on va apprendre à faire la ville contemporaine.
E ci siamo quindi interessati a queste forme della città guerriera, la città resistente. E quello che è importante capire è che è Algeri che insegna la città,
la maniera di costruire la ville moderna, la cartografia moderna.
È ad Algeri che capiamo il modo di costruire la città contemporanea.
Puisqu'en même temps que les Français font la guerre à la Smala d'Abdelkader, ils construisent les cartes contemporaines. Et que, par exemple, le premier geste militaire en Algérie, c'est, hormis le fait d'envahir Alger, c'est pas organiser des opérations militaires, c'est dresser la carte de la Casbah. C'est d'abord faire le cadastre de la Casbah.
Sì. Il primo, visto che quindi i francesi fanno la guerra nel momento della guerra d'occupazione francese dell'Algeria, il primo gesto militare dell'esercito francese è quello di ridisegnare la carta di Algeri, della Casbah di Algeri, disegnando il catasto della Casbah.
Voilà, et ça c'est le premier geste de guerre véritable qui se fait en Algérie.
Et questo è il primo vero e proprio gesto di guerra che si fa ad Algérie.
Et en même temps qu'on construit la ville contemporaine, et c'est important dans ce qui nous occupe là aujourd'hui, en même temps qu'on construit la ville contemporaine, on apprend à la construire en Algérie, on construit aussi l'image de son antithèse qui est l'orientale.
Et nello stesso tempo in cui costruiamo, si impara a costruire la città contemporanea ad Algérie, si costruisce la sua antitesi che è la città orientalizzata.
E l'orientale, l'uomo orientale, la femme orientale en particulier d'ailleurs.
E soprattutto l'uomo e la donna orientale.
C'est-à-dire que pendant longtemps, tu le racontais tout à l'heure, quand les militaires vont revenir et devenir des chefs de district sur le territoire métropolitain français, ils vont appeler les émeutiers, les ouvriers émeutiers, les bédouins de la métropole.
E come prima accennavo, i militari francesi quando ritornano in Francia chiamano gli insorti, i rivoltosi francesi parigini, i beduini della metropoli.
Et ce qui est intéressant, c'est en même temps qu'on va construire cette image, dans cet effort orientaliste, on va construire aussi l'image du nomade. C'est-à-dire que le nomade, ça va être la figure prépondérante qui se construit au 19e, en même temps que l'orientalisme, ça va être la figure de la gitane. C'est Esmeralda, c'est Carmen, c'est ces figures féminines sudistes qui sont très proches en définitive et qui sont dans le même mouvement oriental, puisque la guerre napoléonienne commence en Espagne avant de continuer de l'autre côté de la Méditerranée.
Et in questo progetto, in questo di processo di orientalizzazione della città, assistiamo anche a un processo di orientalizzazione della figura del gitano che nel XIX secolo assume la figura della donna del sud, Esmeralda, Carmen.
Et ce qui est intéressant, enfin ce qui nous a perturbé il y a 5-6 ans, c'est le fait qu'il y a eu un phénomène de réorientalisme avec l'arrivée de nouveaux migrants qui venaient de l'espace post-soviétique, qu'on a tous appelé des Roms, qu'ils ne sont pas tous d'ailleurs, qui ne sont pas tous nécessairement des Roms, et d'un seul coup la figure même du nomade qui était sudiste et de cet Orient du Sud étrange est devenue la figure du Rom, c'est-à-dire cette figure de l'Orient de l'Est.
Sì. E questa, quello che ci ha interessato è che negli ultimi anni, dopo quindi l'apertura dello spazio post-sovietico e l'arrivo dei migranti dell'est, abbiamo assistito a un fenomeno di riorientalizzazione, la figura del nomade, che non è più il nomade del sud, ma viene riorientalizzato nella figura del nomade che viene dall'est.
Donc c'est ce qui nous intéressait, c'est voir comment, qu'est-ce qu'il y avait comme germe possible, enfin, essayer de comprendre ce phénomène-là de réorientalisation, c'est ce qui nous a poussé, nous en tout cas, à aller vers l'Est de l'Europe et particulièrement l'espace post-soviétique, Moldavie, Russie, etc.
Et à partir de, pour capire appunto, cosa c'era alla base di questo processo di riorientalizzazione, e questo ci ha spinto a interessarci allo spazio post-sovietico e quindi ad andare a lavorare nell'est d'Europa.
Et donc je montrais au début que la ville cool, par exemple, c'est un espace qui est devenu partagé entre l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est une continuité, y compris symbolique ou arti, à cette ville-là.
Et l'esempio, la città cool è uno spazio che è stato condiviso sia dall'Europa dell'Ovest e dell'Est.
Mais ce qu'on va voir, et je l'expliquerai tout à l'heure, c'est que ce phénomène d'orientalisme, il est aussi présent à l'Est comme à l'Est, et ça dès le 19e siècle. On n'est pas dans l'apparition de quelque chose, on est dans une vieille histoire d'empire parallèle.
Ma quello che abbiamo scoperto è che questo fenomeno di riorientalizzazione è presente sia in ovest come all'est è data dal XIX secolo.
C'est-à-dire que quand la France envahit l'Algérie, pendant ce temps-là, la Russie envahit le Caucase.
E nello stesso tempo in cui la Francia invadeva l'Algeria, la Russia invadeva il Caucaso.
Et quand la France apprend à faire des cartes de la Casbah à Alger et construire la ville contemporaine en Algérie, les Russes commencent à désarmer leurs troupes en leur donnant des haches pour apprendre à liquider le territoire de manière à ce que les partisans caucasiens ne puissent pas se cacher.
Et dans ce temps en cui la France ridisegnava la carta di Algeri distruggendo la Casbah, i russi cominciavano a ridisegnare il territorio caucasico per impedire che i partigiani potessero ancora combattere.
Donc on voit, le storytelling officiel nous raconte que la ville nomade est étrangère, est archaïque, est orientale. Or, nous, ce qu'on prétend, c'est que la ville nomade, elle est moderne aussi dans ces moments-là, puisque, par exemple, Abdelkader, qui construit la Smala en Algérie, est en contact permanent à cette époque-là avec l'imam Chamil, qui organise la résistance, lui, dans le Caucase du Nord.
Et quindi, contre le storytelling qui ci dice que la città nomade est arcaica, primitiva, quindi noi opiniamo quest'altro discorso e vediamo come Abdelkader nello stesso momento era in contatto con l'imam Chamil che era un leader della resistenza caucasica.
Donc voilà, donc toute la démonstration maintenant c'est montrer en quoi la ville nomade est éminemment moderne, comment elle porte aussi une autre histoire possible de la modernité qui n'a pas encore eu lieu.
E questo per quindi dimostrare che come la città nomade è una città moderna e come essa porti in germe un disegno di una modernità altra che non ha avuto luogo.
Voilà, donc là un exemple russe, je suis désolé, ça va faire un petit peu court d'histoire, mais ça c'est le garage de Melnikov, c'est un exemple d'architecture constructiviste russe, donc qui apparaît juste après la révolution bolchevique.
Questo è un esempio di architettura costruttivista russa, il garage di Melnikov, costruito subito dopo la rivoluzione bolchevique.
Et donc là on voit que l'obsession, qui est propre aux futuristes aussi italiens à un moment, du mouvement, de la vitesse, mais si on voit bien que et cet exemple il est drôle à plein d'égards, mais on voit bien que c'est une représentation, c'est une illustration en définitive de ce que pourrait être une ville en mouvement, mais évidemment cette ville-là elle n'est pas en mouvement, elle est très bolchevique en définitive.
Vediamo questa ossessione verso la velocità. E quindi che porta in luce quello che avrebbe potuto essere una città in movimento.
Voilà, donc la façade arrière aussi avec les baies vitrées qui suivent, qui donnent quelque chose de très dynamique. Et donc quand on va voir ce garage, on a l'impression qu'il est encore en activité puisqu'il y a le garage Renault derrière, il y a des choses. Et en définitive, tous ces garages-là sont fermés.
E quando vediamo ora, questa è la facciata retrostante, e abbiamo l'impressione che questo garage sia ancora in attività, vediamo l'insegna di Volvo, Renault, ma in realtà tutti questi garage sono fermi.
Parce que le vrai garage, il se trouve derrière.
Perché il vero garage si trova dietro.
Là, dans ces containers.
Questi container, sì.
Et ici, c'est donc un garagiste centrasiatique, qui est ouzbek, qui répare toutes les voitures pour pas très cher d'ailleurs.
Questo è un garagista centroasiatico uzbeko che ripara tutte le macchine a poco prezzo.
Alors c'est des ironies de l'histoire, c'est-à-dire que la théorisation constructiviste de la ville en mouvement là, qu'on voit, finalement elle arrive, mais de manière complètement fortuite et très étrange, avec ces objets manufacturés en série qui structurent complètement aujourd'hui l'espace post-soviétique.
E questa è l'ironia della storia, ovvero che la città, il modello della città costruttivista della prima epoca sovietica riarriva veramente oggi in queste forme attraverso tutti questi tipi di garage molto differenti che disegnano la città post-sovietica contemporanea.
Donc je passe rapidement sur les obsessions du mouvement hein, chez les constructivistes. Donc là, ça va être essentiellement des images de Rodchenko qui vont passer. La manière dont il désaxe le point de vue. Au revoir, Cosimo.
Oui, sinon,
merci.
Scusate, devono andare un treno.
Grazie Cosimo, grazie di tutto, tantissimo.
Et donc là on voit les obsessions de Rodchenko, hein, c'est-à-dire désaxer la prise de vue, se dire que l'horizontal et le statique est contre-naturel et donc il faut réintégrer du mouvement.
E dunque queste immagini di Rodchenko evidentemente che sono molto statiche perché mettono l'orizzontale in contrasto con il verticale sono molto statiche.
On commence à réfléchir à d'autres modes de représentation de l'espace qui sont des fois ambigus, qui nous jouent des tours, mais on essaie en effet de réintroduire le mouvement dans la représentation même de l'espace, comme ici.
Et anche qui entrano poi degli elementi che mettono in movimento lo spazio e che giocano nella composizione dello spazio stesso.
Et donc là, vous avez tous reconnu, alors là, on arrive dans le dur, c'est un projet de Mayakovsky et de Rodchenko pour la foire agricole de 1924, et vous avez tous évidemment reconnu un camion cinéma.
E questo è un progetto di Mayakovsky e Rodchenko che del 1924 che rappresenta un camion
cinema.
Un camion cinematografo che
Et donc là on
qu'est-ce qu'il fait là?
Alors là on se demande ce qu'il fait hein. Mais donc l'idée pour Rodchenko et Mayakovsky, c'est aussi que la mobilité doit être est aussi une promesse révolutionnaire et qu'elle peut donc
ah oui,
ils pensent eux qu'évidemment que voilà. l'art du mouvement c'est le cinéma, mais surtout qu'il va falloir penser les équipements culturels comme des voitures de pompiers qui peuvent arriver à un endroit et diffuser des choses.
Ok, donc parce que la velocità è pensata come un elemento rivoluzionario della mobilità e anche quello cinematografico è pensato in rapporto a questo, come diciamo che il futurismo l'abbiamo condiviso.
Voilà, d'autres images, celle de Ziga Vertov, qui lui, pendant toute la guerre civile russe, va diriger un train qui va s'appeler Octobre Rouge et qui va traverser tout le front ukrainien en diffusant des films, en faisant du montage dans le train même et en rediffusant directement la production.
Et questa è proprio l'applicazione concreta di questa macchina cinematografica sul treno che va a riprendere elementi dello spazio che vengono ripresi in diretta e restituiti in questo elemento di velocità.
E che évidemment un peu plus intéressant que le cinéma plus tardif de Medvedkin qui va être un cinéma du contrôle de la production.
Ed è evidentemente più interessante del cinema
de Medvedkin.
Sì, di Medvedkin che invece diventa essenzialmente poi un cinema del controllo.
Voilà, donc je passe brièvement. Alors, l'autre obsession des constructivistes, c'est développer occuper justement l'espace de la rue pour prendre la parole. Et donc, on va inventer des outils architectoniques d'agitprop, comme ici.
E l'altra ossessione dei costruttivisti era quella di occupare lo spazio della strada, soprattutto per gestirlo come spazio del controllo.
Et va y avoir une autre obsession chez les constructivistes, qui va être l'obsession du kiosque.
E l'altra ossessione che avevano i costruttivisti è quella proprio del chiosco.
Donc va y avoir énormément de concours qui vont être lancés pour des projets de kiosques qui vont être des projets
proprio in ragione a questo motivo vennero lanciati dei progetti per immaginare e realizzare dei chioschi.
Et avec cette même idée que du coup les choses peuvent s'installer dans la ville et disparaître, réapparaître à un autre endroit, un peu comme.
Et con questa bella idea, insomma, che delle cose possono apparire e poi sparire nella città senza lasciar traccia.
Donc voilà, cet engouement va vite disparaître. Hein. Staline arrive, on arrête d'utiliser l'espace public à ces fins-là.
Et quindi à questo momento che poi Staline arriva et tutti questi elementi e questi oggetti vanno a scomparire.
Voilà, puisqu'évidemment pour Staline, on arrive au moment où il faut construire des colonnes pour le peuple.
E perché chiaramente nella mentalità staliniana quello che bisognava fare era costruire delle colonie per il popolo.
Mais alors ce qui devient intéressant, c'est que dès les années 90, quand le bloc s'effondre, enfin ou quand on l'aide.
Mais quello che però accade di interessante è che a partire dagli anni 90 è che insomma questi blocchi, queste realtà, questi chioschi diventano problema.
Et l'ensemble des villes post-soviétiques vont se couvrir de kiosques.
Et l'insieme delle città sovietiche vanno a riempirsi di questi chioschi.
C'est-à-dire que des profs, des gens sont réveillés, ils étaient la veille profs d'université dans le plus grand pays du monde et ils sont réveillés le lendemain, ils étaient profs de plus rien dans un pays qui n'existait plus et donc ils sont remis à faire des choses basiques, c'est-à-dire survivre et faire du commerce.
Et perché poi in quel momento molti che sono ritornati nella post Unione Sovietica in realtà sono tornati cercando di rinstallare delle professionalità, delle cose che volevano e avevano nella memoria e volevano guardare e hanno iniziato a riprodurle.
E ces objets sont vraiment structurent complètement l'espace de la ville post-soviétique, si on peut pas fonctionner sans les prodotti où on peut acheter des choses mais aussi où l'économie de bazar existe, c'est les patrons font des prix, font des crédits aux dames qui touchent pas leur retraite, etc.
E queste situazioni, insomma, questi elementi che esistono nelle città post-sovietiche e devono esistere anche in relazione a un'economia che ha bisogno di scambi differenti di prodotti e di merci che entrano altrimenti.
Donc ça peut exister sous ces formes un peu évoluées, hein, mais la forme la plus rudimentaire du kiosque, c'est celle-là.
Et possono esistere nelle forme che avete visto prima, però la forma forse più elementare è questa che vediamo in questa immagine.
Et donc ça, c'est la sortie d'une bouche de métro à Moscou, et quand je suis arrivé, j'ai vu des flics qui prenaient des cartons et qui jetaient tout à la poubelle. Alors je me suis dit que les flics, ils étaient plutôt sympas à Moscou, quand ils trouvaient des poubelles, ils les jetaient à la benne.
Ils étaient propres.
Voilà.
Et quand je suis arrivée dans la métro di Mosca, quello che ho visto è che c'erano dei poliziotti che prendevano questi sacchetti, queste merci e le buttavano nella pattumiera.
Mais en définitive, ils étaient en train de détruire l'installation de trois dangereux hooligans.
Ma in realtà è quello che stavano facendo era quella di distruire e di distruggere delle installazioni di gitani che si erano installati.
Des hooligans.
Ah, hooligan. Pardon.
Et voilà, donc je vous présente les trois hooligans en question.
Ah, et voilà les trois hooligans in questione.
Donc voilà, qui sont ces dames qui ont évidemment plus de retraite ou les retraites sont tellement faibles qu'elles sont obligées.
Che sono evidentemente delle signore che non hanno più pensione o le cui pensioni sono così basse che sono obbligate a fare questo.
Voilà. Et donc là, depuis 2010, la mairie de Moscou a lancé des campagnes de destruction de ces kiosques.
E quindi dal 2010 il comune di Mosca ha lanciato una campagna di distruzione di questi chioschi.
Donc à peu près 10 000 par an, et là la répression s'est intensifiée, et donc on commence à envoyer des bulldozers. Là en février, les dernières destructions, ils ont envoyé des bulldozers alors que les marchands étaient encore dans les kiosques.
Et insomma, questo è successo che sono diventate ben 10.000 e che sempre più avanti nel tempo diventano più intensive, e attualmente addirittura si distruggono dei chioschi con delle persone all'interno.
Tout ça pour pouvoir installer des kiosques avec des accords commerciaux, avec des entreprises françaises. Donc ici, les kiosques de Deco, enfin les toilettes de Deco, mais il a aussi inventé des kiosques automatiques.
Et questo per poter installare a quel posto, insomma, invece dei chioschi voluti chiaramente dallo Stato, con l'accordo di imprese francesi che sono in accordo con compagnie commerciali, con chiaramente tutti gli attrezzi, vessé compreso.
Donc ça, c'est les pays. Bon, il y a des destructions. Je vais passer plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cet espace qui va. L'idée. Alors, ce qui est renvoyé quand même par les autorités russes en ce moment, c'est de dire que bon, cette ville-là, elle est illégale. Ces installations-là, pour eux, sont illégales, donc ils vont les détruire.
Et quindi la motivazione di solito per le autorità moscovite è che queste situazioni sono illegali e pertanto vanno tolte.
Mais qu'en réalité, c'est la volonté de reprise d'un marché jusqu'alors informel, de manière formelle, avec des accords commerciaux entre mairies et entreprises privées.
Ma in realtà si tratta di una riappropriazione di spazi informali che devono tornare in spazi formali e quindi ripresi in mano dall'azione pubblica e quindi tornare dentro questa formalità.